Et donc, je vais laisser la place à Trevor. Alors, notre passage ce matin se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Donc, on poursuit notre série dans l'évangile de Jean. Donc, nous sommes à la page 696 dans les Bibles blanches. 696. On va lire à partir du verset 11. Mais avant de lire, je vais prier pour demander à notre Seigneur de nous aider à nous parler ce matin. Prions. Notre bon Père Céleste, merci pour cette parole. Merci pour la parole de Dieu, cette Bible qui nous a conduit à toi, qui nous a conduit par l'Esprit à Jésus, le bon berger. Et Père, nous voulons te demander ce matin de nous parler, de nous faire grandir en toi, de nous donner ce bon pâturage dont nous avons besoin. Aide-nous à voir Jésus d'une manière encore plus claire ce matin. Et donne-nous de mettre notre confiance en lui, de l'aimer davantage, avoir envie de le servir plus fidèlement. Père, je te demande de m'aider aussi dans l'explication, dans l'annonce de ce passage. Aide-moi à rester fidèle au passage, à l'annoncer avec clarté. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors, le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous ? » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, qui n'a pas peur de l'arnaque? Je suis sûr que chacun de vous, en fait, surtout si vous avez un ordinateur et vous êtes branché à l'Internet, vous avez reçu à un moment donné un email qui vous expliquait que si vous deviez débloquer quelques fonds ou donner vos coordonnées bancaires, vous pourriez accéder à une fortune. Et on lit ces histoires et quelque part on aimerait bien les croire. Ça semble tellement beau. Mais on est méfiant et on a raison de l'être. Et dans le domaine de la foi, on peut être méfiant aussi. Parce qu'il y a des contrefaçons de la foi biblique. Il y a des sectes qui trafiquent les Écritures, qui y ajoutent leurs traditions, leurs rites, leurs sacrements, qui donnent de fausses promesses. Parfois, si on est très jeune dans la foi ou si on ne connaît pas bien ce que la Bible dit, on peut se faire piéger, puis c'est très triste. Il y a des trafiquants de fausses doctrines. Il y a des abus spirituels. Alors, dans le passage de la semaine dernière, Nous avons eu affaire à des propos chocs de Jésus, voire choquants de Jésus. Jésus a utilisé plusieurs images, plusieurs illustrations. Il s'est décrit comme un berger et aussi comme une porte. Jésus a dit qu'en tant que berger, il appelle ses brebis à lui et ses brebis reconnaissent sa voix. Et Jésus était en train d'expliquer que dans l'enclos du peuple juif, c'est lui, Jésus, qui faisait le tri pour appeler à lui les brebis qui appartenaient à Dieu. Et ça, c'est un propos choquant. Jésus était venu pour faire le tri dans le peuple. Et seulement ceux qui écoutaient sa voix étaient vraiment à Dieu. Seulement ceux qui suivent sa voix sont à Dieu. C'est un message exclusif. C'est le genre de message qu'on n'aime pas aujourd'hui. Ensuite, Jésus a dit qu'il était la porte. La seule voie par laquelle il faut passer pour avoir la vie. Et Jésus traitait de voleurs ceux qui essayaient d'enseigner autrement ou qui essayaient d'empêcher les brebis de venir à lui, de passer par lui. Et autour de lui, il y avait des responsables juifs qui n'aimaient pas trop ce que Jésus disait. Ils ont dû être très gênés par ses propos. Le message de Jésus n'est pas une simple philosophie. Le message de Jésus n'est pas une simple liste de règles à suivre, mais c'est un message focalisé sur lui, sur sa personne. Et le message de Jésus est d'une exclusivité totale. Selon lui, il n'y a pas d'autre manière de venir à Dieu, pas d'autre manière de faire partie du peuple de Dieu. C'est très fort. Comme on va voir à la fin de notre passage, ce message ne passait pas comme une lettre à la poste. Et le message exclusif de Jésus est tout aussi choquant aujourd'hui qu'au premier siècle. Qui est cet homme qui centre tout sur lui, sur sa propre personne? Un mégalomane? Un fou? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Parce qu'on ne veut pas se faire avoir, n'est-ce pas? Cette question peut-être c'est la vôtre ce matin. Peut-être que vous ne pouvez pas dire que vous êtes un chrétien, pas encore en tout cas, vous n'êtes pas encore un disciple de Jésus. Mais vous voulez savoir un peu plus, vous voulez un peu enquêter sur la foi chrétienne, savoir si ce Jésus est vraiment digne de confiance. Et ce matin, ce passage nous dit oui, on peut faire confiance à Jésus, on peut avoir confiance en lui. Pour ceux ce matin qui sont déjà croyants, cette question est quand même tout aussi pertinente parce que par le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible, ce passage, il veut fortifier notre foi. Il veut nous montrer que oui, on peut lui faire confiance. Jésus est bel et bien le berger authentique. Il est digne de confiance. Ce matin, nous allons voir que oui, on peut avoir confiance en lui, on peut suivre sa voie, parce que, c'est le premier point, ce bon berger prend soin de nous. Et on va voir dans un deuxième temps qu'on peut lui faire confiance parce que ce bon berger nous connaît. Ensuite, on verra que ce bon berger est digne de confiance parce qu'il a toute l'approbation du Père. Donc, trois points. Ce bon berger digne de confiance parce qu'il prend soin de nous. Ensuite, il nous connaît. Et troisièmement, parce qu'il a toute l'approbation du Père. On va commencer avec ce premier point. Digne de confiance parce qu'il prend soin de nous. Jésus poursuit à son illustration, on l'a vu la semaine dernière. Il parle de brebis, il parle d'un berger. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur les versets 11 et 12 dans nos Bibles blanches. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Alors c'est une illustration très parlante pour une société agricole, mais je pense qu'elle est parfaitement compréhensible pour nous, hein, pour nous qui sommes plutôt citadins. Il suffit d'un peu d'imagination. On sait que les loups sont méchants. Cette semaine, on a eu le cas de ce tigre en Seine-et-Marne. On sait ce que c'est quand même, même en ville, une bête féroce. Alors Jésus nous dit qu'il est bon. Jésus nous dit qu'il est bon. Jésus nous dit qu'il n'est pas un arnaqueur, mais qu'il est digne de confiance. Il se compare à un salarié qui, face au danger, pense tout simplement à sauver sa propre peau. Face au loup sur la montagne, il ne se bat pas, il reste pas là pour protéger les brebis, mais il s'en va, il prend la fuite. Mais lui, le bon berger, reste. Il s'engage. Il s'engage jusqu'à donner sa propre vie pour sauver le troupeau. Je me souviens, il y a quelques années, je travaillais dans une société à la Défense et on savait que cette entreprise allait faire faillite. En tout cas, on le pensait. En quelque sorte, les loups l'encerclaient. Et petit à petit, on voyait les managers qui s'en allaient, qui étaient recrutés par d'autres sociétés. Ils pensaient à sauver leur propre carrière. Et à la fin, moi je n'étais pas recruté, donc j'ai dû rester jusqu'à la fin. J'ai dû annoncer aux salariés restants que l'entreprise avait fait faillite et que ses employés allaient être licenciés. Jésus annonce ici qu'il est le bon berger, lui ne prend pas la fuite. Il reste et il se sacrifie pour ses brebis. On voit qu'il est bon parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Il se substitue à ses brebis pour que ses brebis puissent rester en vie, avoir la vie. Contrairement à ce que certains disent, la mort de Jésus n'est pas un simple exemple moral à suivre. Il n'est pas simplement quelqu'un qui aurait fait un beau geste un peu extrême pour susciter notre admiration, pour nous montrer à quel point il nous aime. Non, sa mort est vraiment efficace. Sa mort sauve les brebis parce qu'il se substitue aux brebis. Il se met à la place des brebis. Il lutte en faveur des brebis. Il meurt à leur place. Si nous voulons être convaincus de la bonté de ce berger, il suffit de regarder à la croix. Jésus n'était pas un homme de parole seulement, pas un homme simplement de belles promesses, mais il a vraiment donné sa vie pour ses brebis. Il est vraiment allé jusqu'au bout. Alors ça ne nous laisse bouche bée que dans la mesure où nous reconnaissons que nous avions besoin d'un berger. Si on n'apprécie pas le danger, on ne va pas apprécier le salut. Si on pense que non, les loups ou les tigres ne présentent aucun danger, on ne va pas vouloir un berger qui nous protège. On va même penser qu'un tel berger est un peu fou de se sacrifier, de mourir. On va penser qu'il est simplement un martyr, un peu fanatique. Mais si on se rend bien compte à quel point on était exposé à un grave danger, et que le berger nous a sortis de là, alors là, nous allons être dans l'émerveillement. On va être dans la reconnaissance pour ce berger. C'est un peu comme si on était des otages qui avaient passé des années en captivité. Et à la vue de notre libérateur, on est rempli de reconnaissance. Dans les chapitres suivants, nous avons vu le danger. Au chapitre 8, on l'a fait il y a quelques semaines, nous avons vu comment l'attitude meurtrière du peuple juif à l'égard de Jésus dévoilait quelque chose de très moche dans leur cœur. Une servitude, un esclavage du péché. Et ça révélait aussi leur paternité. Ils pensaient être les enfants de Dieu. Mais Jésus a dit que parce qu'ils suivaient un autre père, ils faisaient comme un autre père, ils étaient En effet, les enfants du diable, c'était des propos très choquants de la part de Jésus. En fait, Jésus les mettait devant un miroir spirituel. Et dans un sens, par ces passages, Jésus nous met nous aussi devant un miroir spirituel pour que nous puissions voir que nos cœurs ne sont pas différents des leurs. Ils sont remplis aussi de la méfiance à l'égard de Dieu. Oui, on voit cette méfiance dans les médias, on voit cette méfiance dans la société. Mais c'est facile de pointer du doigt. Il faut voir ce qui est dans nos propres cœurs. Il faut commencer avec soi-même. On a besoin d'un berger. On voit au chapitre 3, donc au début de l'évangile de Jean, que ceux qui ne s'accrochent pas au Jésus, qui ne s'accrochent pas au berger, restent sous la juste colère de Dieu. Sans Jésus, parce qu'on est pécheurs, nous sommes exposés à un grave danger. Et ce grave danger, c'est en fait le terrible jugement de Dieu. Mais la bonne nouvelle qu'est l'évangile, est que nous avons un bon berger qui nous aime. Il n'est pas comme un simple salarié qui ne se soucie pas de ses brebis, mais Jésus a vraiment à cœur ses brebis. Et il donne sa vie pour les sauver. Comme Florent a dit la semaine dernière, tout au long de ce passage où Jésus se compare à un berger, il y a en filigrane des passages de l'Ancien Testament. Et ceux qui étaient autour de Jésus ont dû voir ça, ils ont dû penser à d'autres passages dans l'Ancien Testament. Et Michael nous a lu tout à l'heure ce passage dans Ézéchiel 34, où on voit les mauvais bergers d'Israël, qui pensaient à leur propre intérêt, qui faisaient violence aux brebis. Et Jésus, là, était en train de condamner ces bergers, ces mauvais responsables. C'est pour ça que ses propos étaient si choquants pour ceux qui étaient autour de lui. Ensuite, on a vu ce matin qu'Ézéchiel nous a dit que c'est Dieu lui-même qui allait venir, qui avait à cœur les brebis, et qui allait venir pour s'occuper de ces brebis, pour destituer les mauvais bergers et les faire paître ses brebis lui-même, leur donner du bon pâturage. Il allait le faire par un berger, un prince comme David. Et Jésus est en train de dire que c'est lui ce bon berger, ce prince comme David. Jésus est l'Éternel. Dieu lui-même, ce « je suis » qui vient pour prendre soin du peuple de Dieu. Il n'est pas venu pour imposer un système religieux. Il n'est pas venu pour imposer un système religieux avec des rites, des lois à obéir, une liste d'obligations à remplir pour être sauvé ou pour rester sauvé. Il n'est pas venu pour écraser les brebis, pour les garder dans une culpabilité permanente. Il n'est pas venu non plus pour pomper leur argent. Loin s'en faut. Par ailleurs, méfiez-vous de toute église qui agit ainsi, qui vous présente un berger qui fait ça. Non, Jésus se soucie des brebis. Il est bon. Et cette bonté se voit à la croix. C'est là qu'il se donne pour nous libérer une bonne fois pour toutes. Pour faire ce que nous n'aurions jamais pu faire, rembourser notre dette morale, satisfaire à la justice divine par une vie parfaite. Il a fait à notre place pour qu'en vertu de son sacrifice satisfaisant, en vertu de ce sacrifice seul, nous puissions recevoir un plein pardon, un pardon permanent qui ne se perd jamais. Il a fait pour mettre fin à cette culpabilité écrasante. Et ça pour que nous puissions trouver une liberté, la liberté des enfants de Dieu. Et la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est qu'est-ce que vous avez expérimenté cette bonté libératrice, la bonté du bon berger. On y goûte au pied de la croix, c'est-à-dire lorsqu'on vient devant Dieu, humblement, en disant pardon pour nos fautes. Et en nous accrochant non pas à notre bonté, à nos œuvres, nos mérites, mais à nos sacrements. Mais en nous accrochant à Jésus seul. Celui qui est mort à notre place pour sauver ses brebis. En fait, pour nous sauver finalement de Dieu lui-même, de sa juste colère. Passer au deuxième point. Nous pouvons faire confiance à ce bon berger parce qu'il nous connaît. Et nous, on le connaît. Nous sommes au verset 14. Jésus dit, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Et là, Jésus parle d'une relation de confiance. Nous l'avons vu dans le passage précédent. Jésus connaît ses brebis et elles connaissent, elles reconnaissent sa voix. Jésus connaît ses brebis, il les appelle par leur nom, individuellement. Nous ne sommes pas des chiffres, des numéros pour Jésus. Et on l'a vu il y a quelques semaines au chapitre 9, il y avait le récit de cet homme né aveugle. À la fin du chapitre, Jésus est revenu exprès pour chercher cette brebis perdue. Jésus connaissait cette brebis. Il s'occupait de cette brebis. En fait, cet homme né aveugle n'avait pas encore vu Jésus. Il avait été guéri par Jésus, mais il avait été aveugle avant, donc il ne l'avait jamais vu. Mais j'imagine que c'était simplement à l'écoute de sa voix que cet homme né aveugle a dû reconnaître la voix du bon berger. Et cet homme lui a fait confiance. Et cette connaissance de Jésus est marquée par la confiance. Dieu voulant, je vais devenir papa au mois de février. Et j'ai lu quelque part qu'un bébé peut reconnaître la voix de sa maman même avant de la voir. À force de l'avoir entendu avant de naître, le bébé lui fait confiance. Il entend la voix de sa mère et il lui fait confiance. Apparemment, ce n'est pas tout à fait la même chose pour la voix du père, mais ça vient après. Le chrétien, le disciple de Jésus, la brebis si vous voulez, il connaît le bon berger. Il reconnaît sa voix. Il reconnaît qu'il est bon. C'est une relation de confiance. Jésus compare cette relation de confiance à celle qui existe entre lui et son propre Père, Dieu le Père. C'est le verset 15. Jésus dit, « Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. » Et c'est un verset qui va loin. C'est un verset époustouflant. Notre relation avec Jésus, avec le bon berger, peut être comparée à un certain niveau, d'une certaine manière, à celle, la relation qui existe au sein de la Trinité, la relation entre Jésus, Dieu le Fils, et le Père, Dieu le Père. Jésus ne nous invite pas à une relation extérieure de rites et de règles, mais à une foi, une confiance, une connaissance de Dieu qui touche vraiment notre cœur. On reconnaît sa voix, on reconnaît sa bonté. Dieu le Père aime son Fils. Dieu le Fils aime son Père. Il y a quelque chose qui nous dépasse dans ce verset. Et notre vie de disciple est marquée par cette connaissance de la voix du bon berger. C'est en lisant, c'est en entendant la parole proclamée qu'on reconnaît la voix du bon berger. On reconnaît que ce berger est bon. En lisant sa parole et en entendant la parole proclamée, on a cette conviction que ce berger nous connaît. Ce berger nous connaît et nous, on le connaît lui. Il connaît notre cœur, il connaît nos besoins. Il voit ce dont nous avons besoin et on lui fait confiance. Nous voyons au verset 16 que Jésus parle de nous. Il parle d'un autre enclos. Il parle de brebis qui sont ailleurs, celles qui ne sont pas d'un arrière-plan juif. En fait, il parle de tous ceux qui vont entendre sa voix à l'avenir. Non pas de manière littérale, parce que ce n'est pas Jésus qui est allé vers les nations, c'est ses disciples qui sont allés, les apôtres qui sont allés vers les nations. mais par de sa voix qui va être proclamée par la parole. Et cette parole qui a même retenti jusqu'à nous ici. Il parle de personnes qui entendent, qui écoutent sa voix et qui reconnaissent, comme un bébé reconnaît la voix de sa maman, qu'il s'agit de celle, la voix du bon berger. Alors, c'est peut-être vous en ce moment. Vous venez à l'église depuis un moment, vous écoutez Jésus dans sa parole, et quelque part, peut-être même de manière mystérieuse, en fait c'est l'esprit, mais vous savez au fond de vous-même que ce berger vous connaît. Et ce berger est bon. Et qui dit vrai? Et qu'il est digne de confiance? En fait, c'est le moment de lui faire confiance, de vous tourner vers lui dans la repentance, disant pardon pour vos fautes, dans la confiance en lui, en faisant confiance à lui à son sacrifice. Si c'est vous, et si vous avez envie peut-être de rendre audible cette volonté de suivre la voie du bon berger, pourquoi ne pas prier avec quelqu'un, un frère, une sœur dans l'église, ou avec un des responsables de l'église après. On va terminer avec les versets 17 et 18. Et ces versets m'ont beaucoup interpellé cette semaine. On va les relire. Jésus a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir, ou littéralement l'autorité, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et tout d'un coup, Jésus nous donne une perspective éternelle. En fait, c'est comme si la caméra se recule et on a cette vista éternelle. On voit la relation que Jésus a avec son Père, que Dieu le Fils a avec Dieu le Père. Et Jésus veut nous donner un aperçu de cette relation. Et il le fait, me semble-t-il, parce qu'il veut nous donner la certitude que lui, le bon berger, est digne de confiance. Et il peut vraiment nous sauver. Nous, on a parfois tendance à dire que l'amour de Dieu est inconditionnel. On se rassure en quelque sorte en disant que l'amour de Dieu est inconditionnel. On le dit parce qu'on sait dans nos cœurs que si son amour pour nous dépendait de notre performance morale, on n'aurait aucune certitude de son amour. Mais on veut cette assurance, on veut cette certitude. On veut que Dieu nous aime malgré nos hauts et nos bas. Mais on voit ici dans le passage qu'en réalité, ce n'est pas le cas. L'amour de Dieu est bien conditionnel. Pour Jésus, l'amour du Père est conditionnel. Si le Père aime Jésus parce qu'il est obéissant, parce qu'il donne sa vie et la reprend selon l'ordre que le Père lui a donné. Si je traduis littéralement le verset 17, on voit l'emphase, on dit avec plus de force ce que Jésus dit. Donc il dit, c'est pour cette raison que le Père m'aime. Parce que moi je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus a été obéissant de manière tout à fait volontaire. Le texte insiste là-dessus. Personne ne l'a obligé. Même pas les hommes qui vont le mourir. Même pas les Juifs et les Romains qui vont le mettre à mort. Eux, ils pensaient qu'ils étaient un peu maîtres de leur destin, du destin de Jésus aussi. Mais non, Jésus est souverain. Jésus a donné sa vie de manière volontaire, selon l'ordre du Père. Alors Dieu est saint. Dieu exige l'obéissance. Son amour est bien conditionnel. Mais nous voyons ici que le Père peut aimer le Fils. Parce que le Fils a été obéissant. On peut dire bien sûr que le Père a toujours aimé le Fils. Il a aimé de toute éternité. Mais il a aimé de toute éternité parce que, et pour nous c'est un peu incompréhensible, il a aimé de toute éternité parce qu'il savait qu'il allait donner sa vie. Il allait être obéissant. Il allait aller à la croix il y a 2000 ans et donner sa vie pour enfin après la reprendre le jour de Pâques. En fait, vous savez, cette obéissance de Jésus, elle est notre assurance devant Dieu. C'est la source de notre confiance devant lui. C'est la source de notre foi. Parce que Jésus a rempli toutes les conditions de son approbation. Toutes les conditions de la justice divine. Nous sommes, si nous avons entendu à écouter la voix du bon berger, nous sommes ses brebis. Nous sommes donc les brebis de celui qui a toute l'approbation du Père, de celui qui a tout l'amour du Père. Et nous sommes avec lui. Nous sommes son troupeau. Nous sommes en quelque sorte ses invités. Si je devais me présenter au palais de Buckingham pour voir la reine d'Angleterre, mais sans carte d'invitation, bien sûr, je serais refoulé à la porte, comme un malpropre. Mais si moi je devais y aller avec son petit-fils, William, et si William devait lui dire « Écoute, la reine, c'est Trevor, c'est mon ami », je serais accueilli comme un ami du prince. J'aurais le droit d'y entrer, j'aurais le droit de discuter avec elle, de manger à sa table. Et nous, en fait, nous sommes avec le bon berger. Celui qui a déjà toute l'approbation du Père. Celui que le Père aime. Celui que Dieu a aimé de toute éternité parce qu'il a été obéissant il y a 2000 ans sur la croix. Jésus a rempli toutes les conditions de la justice divine pour que nous puissions être avec lui et connaître la vie, entrer dans le palais et connaître notre bon Père céleste. Et notre entrée dans le palais ne dépend pas de notre performance quotidienne, elle dépend de celle de Jésus. Il est aimé du Père parce qu'il a été parfaitement obéissant. Et cela veut dire que nous pouvons faire confiance à ce bon berger. Ce bon berger n'est pas un arnaqueur. Il peut vraiment nous donner la vie. Il peut nous faire entrer dans le palais de notre bon Père céleste. Et la preuve pour nous, c'est le jour de Pâques. Jésus a repris sa vie selon l'ordre du Père. Et ça, c'est la marque de son approbation. Ce jour historique, le jour de Pâques. Là, ce jour-là, le jour de Pâques, c'est comme si Dieu a dit à Jésus les mêmes paroles que Dieu lui a dit le jour de son baptême. Parce que là, Dieu lui a dit, tu es mon fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. Et par grâce, par pure grâce, c'est vraiment un cadeau extraordinaire. Jésus, en nous invitant à le suivre, nous invitant à écouter sa voix, nous fait partager cette approbation. Nous en bénéficions. À la fin de ce passage, nous voyons que les propos de Jésus divisent la foule. Certains disent, ah oui, il est fou, qu'il a même un démon. Mais d'autres disent, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle? C'est vrai, c'est une bonne question. Alors, comment est-ce que nous allons réagir ce matin? Par la confiance? Par l'écoute de sa voix? Nous avons un bon berger. Nous avons un bon berger en qui on peut avoir confiance, on peut mettre notre confiance en lui. Il est bon, il est vraiment bon. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il a rempli toutes les conditions pour que nous puissions connaître notre Père, le Père, Dieu le Père. Nous n'avons pas à avoir honte cette semaine de notre berger. Oui, certains vont dire qu'il est fou et que nous sommes fous pour le suivre. Mais d'autres, par notre témoignage, vont entendre la voix du berger, entendre sa voix. Et Jésus va les amener à lui, il va les amener à son enclos protecteur. Ce berger est encore à l'œuvre cette semaine, sa voix retentit, sa parole retentit. Cette parole nous conduit à lui pour avoir la vie. la vie dans l'enclos de ce berger. On peut lui faire confiance. Ce berger est vraiment bon. Son salut n'est pas juste une promesse qui tombe à l'eau. Mais le jour de Pâques nous le montre. Ce berger est vraiment digne de confiance. Je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père Céleste, merci pour ton Fils. Merci, notre Père, de lui avoir donné cette autorité, de lui avoir donné cet ordre. Merci de nous avoir aimés de cette manière-là. Et Père, merci de ce que Jésus a rempli toutes les exigences de la justice divine, de ta justice, pour que nous qui écoutons sa voix, qui suivons sa voix, puissions entrer dans ta présence. Oui, on n'est pas digne de cela. On vient simplement nous accrochant à Jésus, à lui, celui qui a toute ton approbation. On a besoin de lui. Merci pour lui. Aide-nous à vivre cette semaine en nous accrochant à lui. Aide-nous à entrer avec assurance dans cette salle du trône de la grâce, jour après jour, et vivre cette bonté, cette assurance, cette liberté des enfants de Dieu. Et donne-nous de la fierté en ce berger. Donne-nous du courage pour annoncer sa parole. Puis sa parole, sa voix retentir cette semaine là où tu nous envoies. Donne-nous du courage. Donne-nous de l'annoncer avec fidélité. Donne-nous des occasions de partager notre espérance. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci à Trevor. Si vous le pouvez, je vous propose de vous lever pour chanter un dernier cantique, Il me conduit, que ce soit l'occasion pour nous de méditer ce que nous venons d'entendre. Chantons donc. Il me conduit.